La radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous voulez revenir sur l'hydroxychloroquine et l'étude problématique du Lancet.
Oui, Guillaume, vous savez, l'hydroxychloroquine, c'est un peu l'histoire sans fin, mais sans le dragon volant, en fait. Voilà, on vous expliquait donc la semaine dernière qu'il était trop tôt, hein, pour dire fin de partie pour l'hydroxychloroquine sur les bases de cette étude dont vous parliez tout à l'heure dans la question du jour, qui, je vous le rappelle, est une étude observationnelle, hein, c'est-à-dire rétrospective à partir de l'analyse des données de santé de plus de 670 hôpitaux dans le monde, et pas une étude interventionnelle, c'est-à-dire un essai clinique réalisé exprès pour tester la molécule sur des patients en suivant ce qui n'a pas été respecté jusqu'ici, à savoir le protocole de l'essai randomisé en double aveugle contre placebo, ce qu'on appelle donc un gold standard, parce que lui seul, et jusqu'à preuve du contraire, est à même de faire une démonstration nette et incontestable de l'efficacité ou non d'une molécule sur une pathologie. Donc, non seulement une étude observationnelle n'a pas la puissance de démonstration pour clore le débat, comme je vous le disais, et encore moins lorsqu'elle présente des biais méthodologiques, comme cela semble être le cas pour l'étude publiée dans The Lancet. Tout part d'une lettre signée par une centaine de médecins et de statisticiens internationaux envoyée aux auteurs de l'étude et à Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, sur l'impulsion de James Watson, de l'université de Mysol à Bangkok, qui est lui-même coordinateur d'une étude clinique visant à prescrire de l'hydroxychloroquine en préventif aux soignants. Voici les arguments de cette lettre. Tout d'abord, l'étude ne compte que 4 auteurs, l'étude de The Lancet, ce qui est très peu et très peu courant, surtout pour une étude de cette ampleur, hein, qui collecte et analyse les données de 96 000 patients. Ce type de grande étude rétrospective compte en général des dizaines d'auteurs, il est vrai, tant la collecte, l'analyse et la comparaison des données impliquent du monde partout sur la planète. Mais les critiques se concentrent surtout sur la nature des données collectées et leur qualité. Plusieurs choses à ce propos. Ces données massives ont été recueillies par une société, Surgisphere, qui est fondée par l'un des co-auteurs de l'étude, qui s'appelle Sapan Desai. Lorsque les signataires de la lettre ont demandé aux auteurs qu'ils communiquent le détail de leurs données qui n'étaient pas jointes à leur étude, contrevenant d'ailleurs de ce fait une déclaration qui s'appelle Wellcome Trust, signée publiquement par la revue The Lancet, de transparence sur le partage des données relatives à la Covid, eh bien les auteurs ont répondu que leur accord de partage de données avec les divers gouvernements, pays et hôpitaux ne leur permettait pas de les mettre à disposition. Ce qui scientifiquement est un lourd problème. Sans données disponibles, même de façon anonymisée ou agrégée, hein, de façon à respecter la confidentialité des patients, il est impossible non seulement de vérifier la qualité de l'analyse qui est fournie et celle de l'étude, mais il est également impossible de savoir avec précision d'où ces données proviennent.
Et ça, c'est le deuxième biais très important de cette étude, Nicolas.
Oui, Guillaume, outre le fait qu'il n'y ait aucune mention des pays ou des hôpitaux qui ont contribué à cette collecte, hein, uniquement des conclusions par continent, il est impossible de savoir sur quelle éthique reposent ces prélèvements de données. Elles pourraient très bien, dans le pire des scénarios, relever du hacking, c'est-à-dire du téléchargement illégal, de l'illégalité, donc, voire de l'achat, ce qui peut se produire, hein, dans certains cas, mais qui doit à tout prix, évidemment, pour des questions éthiques, être mentionné. Bref, vous voyez, il s'agit là d'un biais de taille qui, en effet, interroge la position du Lancet dans la publication de cette étude, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une revue à comité de lecture et que ce que fait un comité de lecture, c'est précisément revoir les données, les recouper et adresser le cas échéant des critiques aux auteurs pour qu'ils en corrigent certaines. Ainsi, on trouve dans l'étude du Lancet des données incohérentes provenant d'Australie où le nombre de cas est trop élevé par rapport aux déclarations du gouvernement, ce qu'ont reconnu d'ailleurs les auteurs qui confessent s'être trompés dans la classification d'un hôpital asiatique qui est passé dans la colonne Australie. Tout ça n'est évidemment pas sérieux ni fiable et in fine très dommageable pour la crédibilité de la démarche scientifique, qui plus est pour une revue à aussi haut facteur d'impact que The Lancet. Alors est-ce que cela remet pour autant en cause les conclusions de l'étude? Impossible de le dire sans avoir plus de détails. Alors, que pensez, allez-vous me dire, de la littérature sur l'hydroxychloroquine? Eh bien, à peu près la même chose que ce que je vous disais en conclusion la semaine dernière. Dans l'état actuel des choses, il est toujours strictement impossible de tirer une conclusion définitive, que ce soit sur la base des travaux de l'IHU de Marseille ou des autres essais parcellaires qui ont été menés sur la question, en l'absence de ce fameux gold standard, qui risque bien de ne pas arriver de sitôt, puisque la majeure partie des essais en cours ont été interrompus ces derniers jours. On peut rappeler qu'il y a tout de même un faisceau de preuves liées à d'autres études rétrospectives qui, elles, n'ont pour l'heure pas été critiquées, publiées dans des revues très prestigieuses comme le New England Journal of Medicine ou le British Medical Journal. Peut-être que l'analyse des résultats préliminaires menés jusqu'à présent par quelques cohortes internationales comme l'essai Solidarity ou l'essai français H-Covid nous donneront des indices, mais il ne s'agira encore que d'indices et pas de preuves.
Merci Nicolas Martin.